CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. CFM.
CFM donne 15 minutes d'antenne à chacun des candidats à l'élection législative et c'est dans ce cadre que je m'entretiens avec Monique Butler-Lermand qui est candidate du Parti Socialiste sur la première circonscription de l'Aveyron. Dans vos documents de campagne, madame, vous parlez du bouclier rural. Quelle notion mettez-vous derrière ce mot bouclier rural ? Et pourquoi ?
Oui, alors écoutez, c'est en même temps extrêmement simple à comprendre qu'aujourd'hui, dans les milieux, en milieu rural, il manque tout ce qui fait que les habitants et nos concitoyens peuvent rester, habiter et vivre en territoire rural. Voilà, il n'y a plus ce qui fait que les populations peuvent rester sur ces territoires. Et il y a de moins en moins de médecins, l'inquiétude est grande sur la raréfaction des médecins en milieu rural, il y a des solutions à apporter, l'inquiétude est grande sur l'ensemble des services publics, notamment l'école, qui effectivement est violemment touchée par les politiques mises en œuvre par Nicolas Sarkozy, relayée pour le coup par le rapporteur spécial du dossier scolaire, qui est le député de la première circonscription, Yves-Sanfi, et qui porte sur cette affaire-là une responsabilité majeure. Lorsque l'on dit qu'il n'a effectivement pas fait grand-chose, tout ce qu'il a fait, c'est porter préjudice et atteinte à la capacité et au choix des Aveyronnaises et des Aveyronnais de vivre en milieu rural. Donc l'école, la poste, le maillage médical, mais aussi l'économie, tout simplement. La ruralité, c'est aussi une agriculture qui, notamment sur le nord de la circonscription, est reconnue, labellisée, qualifiée, presque je dirais internationalement reconnue, et pourtant bien maltraitée, puisque l'ensemble de la législation qu'a voté Yves-Sanfi pénalise notamment l'installation de jeunes agriculteurs. Donc là encore, on voit que la démarche qui a été entreprise par le gouvernement de Nicolas Sarkozy pendant une dizaine d'années et qui a été largement validée par le député sortant Yves-Sanfi a pénalisé et nous impose de recréer, de créer un bouclier rural pour assurer protection à nos concitoyens.
Sur cet aspect de l'installation des jeunes agriculteurs, comment feriez-vous, comment ferez-vous si vous êtes élu député ou comment fera la majorité du président de la République s'il l'obtient ?
Il est temps de rééquilibrer les rapports de force entre producteurs et distributeurs. Il est temps de redonner du sens à la production agricole. Il est temps de permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail. Chacun sait que ce n'est pas le cas. Donc il y a d'abord une grande réforme de la PAC à effectuer. Et là, il y aura énormément de travail au niveau européen. Et il y aura aussi tout un arsenal législatif qui aujourd'hui pénalise les agriculteurs parce qu'en fait, ils ont tendance à augmenter les surfaces d'exploitation, ce qui fait que ça rend les transmissions extrêmement compliquées. Donc effectivement, il y a un arsenal législatif à mettre en œuvre et il faudra l'appui des pouvoirs publics pour favoriser l'installation des jeunes.
En favorisant des exploitations moins importantes ?
Je pense qu'il faut effectivement réorganiser en concertation, hein, bien entendu. Il faut que chacun puisse trouver son compte, s'épanouir dans son métier, dans son travail. Et ce qui est important en tout premier lieu, c'est de redonner le juste rapport de celui qui travaille sa terre et sa production agricole.
Sur la réforme de la PAC, vous avez quelques précisions à nous donner ?
Encore une fois, il va falloir se remettre sur la ligne de la justice sociale, la justice fiscale. Et en ce qui concerne la PAC, il va falloir que nous arrêtions de privilégier par les primes et par le système de primes, de privilégier les grandes surfaces. Voilà, c'est essentiellement ça. Il va falloir qu'on redonne de la justice à cette PAC.
Dans ce bouclier rural, vous indiquiez qu'on doit respecter le choix de nos concitoyens de vivre où ils entendent vivre. Et puis je pense aussi que si on veut une ruralité vivante, il faut qu'elle soit occupée, habitée. Mais il y a un problème qui se pose, et qui se pose d'autant plus en ce moment, avec les problèmes de limitation énergétique, c'est les déplacements en zone rurale. Parce que si on a des difficultés, si les déplacements de long kilométrage ont un coût de plus en plus important, ben ça compromet la ruralité, non ?
Oui, vous savez, les économies que l'on pourrait faire d'énergie en ce qui concerne les déplacements, il faudrait déjà que l'on se préoccupe d'appliquer une véritable taxe carbone à toute la production qui est massivement importée de pays fort lointains, d'une production que l'on pourrait réaliser sur place, sur nos territoires. Donc, ça n'est pas une problématique d'économie d'énergie, de transport des ruraux vers l'urbain. C'est simplement redensifier l'économie en milieu rural et réindustrialiser notre pays. L'enjeu, il est là. Il est redonner du sens à nos territoires. Nous avons des territoires extrêmement riches partout en France et notamment sur le territoire de la première circonscription de l'Aveyron. Et là encore, l'appui et le soutien d'un député qui travaille sera majeur et indispensable pour redonner du sens au territoire, au projet de vie que nous avons choisi et redonner de la réindustrialisation sur ce territoire. On a une production de qualité très importante, encore une fois, une production agricole de multiples types d'agriculture et de production, mais on va pouvoir organiser aussi de la transformation sur ces territoires. Comme ça, on pourra vivre en milieu rural. Aujourd'hui, le problème, notamment, par exemple, des forges de l'Aïeul, c'est surtout de trouver des gens qui habitent à l'Aïeul pour venir travailler aux forges de l'Aïeul. On n'est pas du tout sur un problème de comment est-ce qu'on transporte le rural vers l'urbain. Ce n'est pas une fatalité. Et en tous les cas, on a d'autres préoccupations en matière d'économie d'énergie sur les transports de marchandises qu'on exporte.
Dans cette ruralité, vous, dans vos documents de campagne, vous évoquez le maintien des médecins en milieu rural, le maintien de la médecine, je suppose, en milieu rural. Comment comptez-vous vous y prendre précisément ?
Il y a plusieurs solutions. Vous savez, un médecin, c'est aussi un étudiant qui fait un nombre d'années d'études importantes. Ces années d'études importantes sont effectuées dans le cadre de l'éducation que l'État dispense. Donc, pas illogique d'imaginer un contrat, tout simplement, entre un étudiant en médecine qui a terminé ses nombreuses années d'études de médecin, et puis qui va, ne serait-ce que pour sa complète formation, eh bien, faire, pourquoi pas, plusieurs années en milieu rural, là où il y a une demande et un besoin de maillage médical sur le territoire. Après, il y a toutes les formes incitatives. Mais il faut savoir qu'on est quand même dans un contexte où il va falloir être rigoureux. Voilà, pour pas utiliser le terme de rigueur. Il va falloir être rigoureux. L'argent public n'est pas renouvelable à l'infini. On a besoin, chacun d'entre nous, de faire des efforts.
Toujours dans vos documents de campagne, vous parlez de la précarité énergétique de 8 millions de Français. Ça rejoint d'ailleurs une des questions qu'on évoquait à l'instant. Qu'est-ce qui est envisagé de ce point de vue ?
Mais il va falloir mettre des prix de base pour une alimentation minimale des gens les plus démunis. Il n'est pas question que ces gens-là puissent finir par ne plus ni se chauffer, ni s'éclairer. Voilà, on a le devoir de permettre à tout un chacun d'avoir accès à un minimum d'énergie. C'est une question de justice sociale, tout simplement.
Lorsque vous parlez de renforcer et de revaloriser l'aide personnalisée à l'autonomie, généralement pour les personnes âgées, c'est elles qui sont atteintes dans leur autonomie, c'est dans quelle proportion et c'est sur quel fond ?
Alors il va falloir bien évidemment revoir l'ensemble des dispositifs qui existent, certainement les recentrer et il faudra effectivement débloquer les fonds nécessaires. Mais la problématique est certainement comment on va trouver les fonds. C'est une partie de la problématique. L'essentiel, c'est comment, dans quelle dignité on va permettre d'accompagner, que ce soit nos anciens ou les gens victimes d'accidents de la vie et du jour au lendemain se retrouvent indépendants, est-ce que notre choix de société, c'est de laisser ces gens vivre dans l'injustice sociale, encore une fois, la plus totale? C'est pas la question de dire on va aider les gens qui ne savent pas eux-mêmes, etc. C'est simplement de dire qu'on va continuer à accompagner dans la dignité nos plus anciens, les personnes dépendantes. Ça, je pense pas qu'on puisse prendre ce problème-là par le bout du comment est-ce que l'on va financer. Il faut d'abord savoir quel choix de société. Effectivement, après, quand on a déterminé le choix de société, celui de François Hollande, il est clair, il a été validé par une majorité de Français. C'est dans ce projet-là que moi je m'inscris, et dans ce projet-là, il y a redonné du sens à l'accompagnement de la dépendance, du sens à la dignité humaine, du sens à l'accueil en milieu hospitalier, du sens à l'accueil pour les personnes âgées en maison de retraite. Voilà, c'est ce choix-là qu'on a fait, et après, on mettra les moyens financiers qui vont avec.
Sur la ruralité, il y a un facteur important de son désenclavement, entre guillemets, qui est le plan d'aménagement numérique. Il y a eu un gros coup de collier donné il y a 3 ou 4 ans par la région, et on a le sentiment que après, ça s'est quand même sérieusement ralenti. Vous pensez que vous pourrez, là aussi, faire dégager les budgets pour que la ruralité soit équipée convenablement ?
Très franchement, cette problématique du budget, je sens que vous voulez qu'on en parle absolument, on a quand même trouvé les moyens de faire un bouclier fiscal. Alors, pardonnez-moi, mais je pense qu'il est grand temps de redonner les moyens là où il y en a besoin. Il y en a besoin pour réinstaller des jeunes en milieu rural, il y en a besoin pour redynamiser notre tissu économique, il y en a besoin pour protéger notre modèle social, et effectivement, il va y en avoir besoin pour engager un grand plan d'aménagement numérique du territoire. Jusque-là, on a fait du saupoudrage, on n'a pas entamé un grand plan avec la concertation, avec les territoires, on n'a jamais tranché entre remettons entre les mains des opérateurs l'aménagement numérique du territoire, où est-ce que nous nous saisissons, nous, État, collectivité, publique, de cette affaire-là, et est-ce que nous assurons, nous, sur le territoire français, une justice sur la capacité du débit pour tous. Voilà. Donc là encore, la décision, elle est au départ du choix que l'on veut faire. Moi, je fais le choix, comme François Hollande, de garantir l'engagement dans un plan financé. Et effectivement, en France, on a dépensé beaucoup d'argent, notamment sous le mandat de Nicolas Sarkozy, pour créer des emplois. Sauf que on n'a jamais mis autant d'argent et il n'y a jamais eu aussi peu de résultats. Donc encore une fois, remettons les moyens financiers là où ils sont nécessaires, trouvons les bonnes ressources financières là où on a fait des cadeaux aux plus aisés, et je pense qu'on arrivera à remettre en marche notre société, notre économie, notre vivre ensemble, notre modèle social.
Alors un des moyens de remettre en marche notre économie, dans la ruralité, il y a des logements, et même si on n'a pas les besoins en nombre de logements neufs aussi importants que dans les villes, la majorité des logements ruraux est loin d'être économe en énergie ou au maximum du confort possible. Et là, j'ai cru comprendre que vous envisagiez des choses également.
Tout à fait. Mais François Hollande a clairement dit dans ses engagements qu'il remettrait en place un plan d'amélioration énergétique des habitations. Et je pense que ça va dans le sens à la fois de l'économie d'énergie, à la fois du respect de l'environnement, et en même temps, c'est aussi une source de travail pour tous nos artisans locaux, une redynamisation de notre économie locale.
Eh bien,
effectivement, c'est quelque chose qui est indispensable.
Nous sommes au terme de notre entretien. Monique Bultel-Hermand, je rappelle que vous êtes donc la candidate du Parti Socialiste pour la première circonscription de l'Aveyron. J'espère que vos électeurs vous auront entendu et je vous remercie.
Alors une toute petite précision, c'est que je suis à la fois la candidate du Parti Socialiste, mais pas seulement. Je suis la candidate de la majorité présidentielle soutenue par François Hollande.
C'est une précision qui sera entendue.
Voilà.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. CFM.